Je suis heureux d'être avec vous pour ces quelques jours, jusqu'à dimanche, pour répondre à l'invitation de votre pasteur. Comme il l'a dit lui-même, il m'a invité 3 fois pour le même sujet. Alors il faut croire qu'il a vraiment envie que l'Église dont il a la charge soit en bonne santé. Et ce sujet, on l'a appelé la guérison intérieure. Ça veut beaucoup dire beaucoup de choses, et en même temps peut-être pas assez. Si j'avais le temps, je vous demanderais pour vous ce que ça veut dire. Quel est le sens que vous donnez au titre qui a été donné pour ces réunions? Peut-être à quoi aussi est-ce que vous vous attendez? Mais le mieux pour moi, c'est que je ne le sache pas, pour ne pas être influencé, pour parler librement. Car quelquefois, quand on sait un peu trop de choses, on est un peu gêné pour apporter ce qu'on doit apporter, même si ce qu'on doit apporter, c'est vraiment ce qu'on doit dire. Mais après, les gens pensent, oui, mais il est au courant, il a été informé. Or, je n'ai été informé de rien du tout, si ce n'est du choix du sujet. Alors, je précise que je ne veux pas être un spécialiste de ce thème. Y a-t-il des spécialistes? Soyons déjà des généralistes. Ce sera déjà pas mal. Parce que le problème des spécialistes, notamment en médecine, c'est qu'ils ne connaissent en général que leur discipline. Et même maintenant, être généraliste, c'est devenu une spécialité pour ceux qui font des études médicales. Mais c'est vrai, si celui qui soigne les oreilles ne veut pas savoir ce qui se passe dans les yeux ou ailleurs, ça va être compliqué. Or, nous faisons un tout. Et lorsque Dieu a prévu de nous sauver, c'est pour nous sauver entièrement. C'est pas seulement pour mettre quelques pièces de pansement là où ça fait mal, quoique maintenant, avec la publicité, on dit même pas mal. C'est pas ça du tout. Le projet de Dieu, c'est de sauver l'homme entièrement. Alors, dans les échanges que nous avons eus avant de me déplacer ici, votre pasteur aurait voulu que je lui donne un thème par réunion. Il aurait bien aimé, enfin, il m'a demandé, au cas où, qu'il ne risque rien à rien. Mais je l'ai peut-être déçu, donc j'espère qu'il va être guéri intérieurement, parce que je n'ai pas répondu à sa demande en disant, si je me lis déjà en donnant des sous-titres pour chaque réunion, je vais être obligé de les traiter, et peut-être que nous serons conduits à envisager les choses sous un autre angle. Donc, le titre général va me suffire, et puis après nous allons voir comment nous allons avancer, car en effet le sujet est très vaste et il peut être abordé par plusieurs angles, et je ne veux pas tomber dans la routine. J'ai regardé mes notes de ce que j'avais prêché à Vienne, parce que une fois que c'est fini, je sais ce que j'ai dit. Avant, je ne sais pas toujours ce que je vais dire, mais une fois que j'ai fini, normalement je sais ce que j'ai dit. J'ai regardé les notes de ce que j'avais enseigné à sa demande à Alès, mais j'ai refusé de revenir avec le même plan. J'aurais pu le faire, peut-être que je redirais des choses équivalentes, mais je voudrais personnaliser pour vous ce sujet. Alors la première chose que je me suis dit, enfin quand je dis la première, c'est pas vraiment la première, c'est une fois arrivé sur place. Parce qu'une fois qu'on est arrivé sur place, on sent que les réunions approchent, et là on se sent beaucoup plus impliqué. La première chose donc, une fois mes valises posées, et à laquelle j'ai pensé en fin d'après-midi pour aborder la réunion de ce soir, est celle-ci. Peut-être certains, qui peut-être ne sont pas venus d'ailleurs, se sont dit, ce sujet, ça ne me concerne pas. La guérison intérieur, je ne suis pas malade, donc c'est pas pour moi, c'est pas un sujet qui me concerne, je ne suis pas un cas pathologique, je vais bien, je dors bien, je mange bien, je bois bien, enfin, toute proportion gardée, tout va bien. Donc, ces réunions ne sont pas pour moi. Donc, je ne peux pas parler aux absents, mais je m'adresse aux présents. Et peut-être quand même qu'il y en a certains qui ont cette pensée de dire, je vais venir en curieux, mais ça ne me concerne pas. Ça arrive parfois qu'il y ait des gens comme ça, qui disent, on vient en curieux, ça ne nous concerne pas, mais on vient pour voir. On vient pour voir. Ça m'est arrivé une fois, j'avais invité un prédicateur lorsque j'étais pasteur à Strasbourg. Et c'est vrai qu'il s'était un petit peu égaré. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à un moment donné, après avoir dit que son père, officier américain, avait été tué le 11 novembre 1918, 11 novembre 1918, ça vous dit quelque chose ? Il avait été étonné parce que l'Assemblée n'avait pas dit « Alléluia, votre père est un héros ». Il y a eu comme un grand silence. Vous savez pourquoi ? Parce que si son père à lui, officier de l'armée américaine, avait été tué le 11 novembre 1918, ceux qui étaient en face, à Strasbourg, avaient peut-être eu, eux, leur père, de tuer le même jour, mais dans l'armée d'en face. Alors le lendemain, les gens sont revenus quand même. Certains, quoi qu'on ait passé de 500 à 50, ça fait quand même une petite chute dans l'auditoire. Et certains ont dit, on vient, mais en curieux, pour voir ce qu'il va dire ce soir. Mais c'était un homme intelligent, il s'est rattrapé, et après avoir fait de 500 à 50, il s'est bien rattrapé le lendemain, et après, la chose a été guérie, intérieurement et extérieurement. Et quand même, je serais intéressé de savoir à quoi vous vous attendez. Alors, comme quand je pose une question, je prévois la réponse, sinon je pose pas la question de peur que je ne me piège moi-même, je me suis dit, si quelqu'un se dit, je suis pas concerné par le sujet, je suis pas malade, que vas-tu lui répondre ? Eh bien, voilà ce que je vais lui répondre. Vous n'êtes peut-être pas malade, mais vous êtes pécheur. Vous n'avez peut-être pas, selon vous, besoin de guérison, mais vous avez besoin de salut. Même si tout va bien. Le sommeil est bon, il n'y a pas de blessure spéciale à guérir, il y a quand même quelque chose à soigner, à sauver. C'est votre âme. Car dans la Bible, le verbe sauver et le verbe guérir sont souvent deux traductions différentes en français d'un seul et même verbe. Et vous allez voir que guérir, selon la manière dont la Bible en parle, c'est au-delà de ce à quoi on peut penser. Ça ne veut pas dire qu'on soit tous des malades, mais ça veut dire qu'on a tous besoin du salut de Dieu qui nous a été donné en Jésus-Christ, et dans le salut de Dieu, il y a la guérison sous la forme dont je voudrais vous parler ce soir. Parce que je voudrais vous faire découvrir avec moi, en fait, le plan de salut de Dieu, qui est aussi un plan de guérison, et limiter la guérison à un soin physique ou à un soin psychologique, c'est vraiment limiter ce que Dieu est capable de faire, car en fait, ce qu'il veut surtout nous donner, c'est un soin spirituel. Car, quand bien même aurions-nous vécu sur la terre avec une bonne santé, un jour, il faudrait bien mourir quand même d'une maladie qui nous emportera. Et ceux qui disent que quand on est malade, Dieu va nous guérir obligatoirement, je vais répondre oui, sauf de la dernière maladie qui nous emportera. Alors là, il faudra bien paraître devant lui, et la question qui ne sera pas à débattre, parce que ce sera trop tard pour en débattre. Ce sera la question de notre salut, et dans le salut de Dieu, sur la terre, il y a déjà un processus de guérison et de guérison intérieure. Alors, il est convenu de proposer des lectures, et je vais vous en proposer une ou deux pour aller un peu plus loin dans le sujet, mais je voudrais vous dire ce que je m'impose quand je fais une série de réunions comme ça sur un sujet, c'est de ne pas chercher à faire une performance, c'est-à-dire à dire beaucoup de choses en une seule fois pour pouvoir aborder le deuxième volet le lendemain. Je ne sais pas ce que sera le deuxième volet demain, mais ce que je veux ce soir, c'est prendre mon temps, pour que vous ayez le temps d'assimiler les éléments que je voudrais partager avec vous ce soir. Et si je n'ai pas le temps de finir ce que j'ai préparé pour ce soir, on finira le repas demain, samedi, dimanche. Il ne s'agit pas de dire beaucoup de choses, mais il s'agit de dire des choses utiles, des choses importantes. Et dans le psaume 107, il est écrit, dans le psaume 107, il est écrit au verset 19, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. » Voilà, nous sommes dans le sujet. Il envoya sa parole et il les guérit. Donc, nous avons déjà ici un objectif que Dieu a pour les êtres humains, c'est leur guérison, mais aussi nous avons un moyen par lequel il veut y parvenir, c'est sa parole. Il envoya sa parole, et quand il est écrit dans la Bible, il envoya sa parole, la question est, qu'est-ce que la parole ? Pour un certain nombre de personnes habituées à un vocabulaire, on va dire chrétien, évangélique ou spirituel, ils pensent à la Bible. D'ailleurs, j'ai dans les premières pages de cette édition de la Bible, qui est sûrement une bonne édition parce que c'est l'édition des imprimeries Viens et Vois. Alors, si une Bible est bonne, c'est bien celle-là, hein, vu que les éditions Viens et Vois sont des éditions qui existent dans le cadre de notre mouvement d'église. Mais je plaisante un peu en disant ça. Mais il est écrit, première page, la Bible est un livre extraordinaire et une somme considérable de faits apporte la preuve qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Je ne vais pas m'inscrire en faux contre ça. La Bible est la parole de Dieu. Bien que ça ferait un autre sujet, si vous voulez, de séminaire, parce que quand les gens lisent la Bible, ils voient dans la Bible des choses étonnantes. Un crime, des crimes, des viols, des incestes, des injustices. Alors ils disent, si la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ça ? Parce que certains ont un raccourci, ils disent, nous on obéit à toute la Bible. Ah bon, alors vous faites pareil ? Mais non, attendez. Ces choses sont dans la Bible parce qu'elles ont vraiment eu lieu. La Bible réclame le fait et revendique la vertu d'être la vérité parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Mais ça ne veut pas dire que même tout ce qui est écrit dans la Bible est accompli par les hommes, Dieu l'approuve. Mais ce serait un autre sujet qui consisterait à expliquer comment lire la Bible, comment comprendre la Bible, je dirais même comment interpréter la Bible, parce que vous le vouliez ou non, pour comprendre, pour interpréter. Et pour interpréter, il faut des éléments pour. Mais en fait, si on limite la parole de Dieu à la Bible, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu la Bible, il n'y a pas eu la parole de Dieu. Ou ça voudrait dire ça. Certains pensent que la Bible a toujours existé et quand elle a été donnée aux hommes, elle est tombée du ciel tout imprimée. Pas du tout. Sa rédaction a pris des siècles. Mais quand même, la parole de Dieu existait avant la Bible. Ça vous choque que je dise cela ? C'est pas la Bible qui a inventé Dieu. Dieu n'est pas sorti de la Bible. C'est pas à partir de la Bible que Dieu s'est mis à exister, mais c'est Dieu qui a donné un texte écrit, constitué au fur et à mesure des siècles, pour que nous ayons une référence écrite, car c'est plus facile de se référer à un écrit qu'à des paroles, comme on dit, qui s'envolent. Et la parole de Dieu, rappelez-vous bien, à chaque fois que vous verrez l'expression parole de Dieu dans les Écritures, parce que ce sont les Écritures en fait, ça, dites-vous que, comme dit Jean dans son évangile, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole c'est quelqu'un que Dieu a envoyé dans le monde, qu'il a donné au monde. Il envoya sa parole et il l'a guéri, et ce quelqu'un c'est Jésus-Christ, c'est lui la parole faite chair, la parole éternelle. Personne n'a créé Jésus-Christ, il a été engendré dans le sein de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit, mais il est devenu homme, mais il était avant d'être un homme. Et contrairement à ce qu'a dit un écrivain ou un journaliste qui sévit, parce que je dis qu'il sévit, je ne peux pas dire autrement, sur certaines chaînes de télé, l'homme Jésus n'est pas devenu Dieu, parce qu'il y a eu un livre écrit récemment qui prétend que on a fait devenir Jésus Dieu, mais c'est Jésus qui existait d'éternité en éternité comme Dieu qui est devenu homme. Il envoya sa parole et il l'a guéri. Pourquoi ce grand préambule? C'est parce que je voudrais vous montrer que je ne me place pas sur un terrain seulement de psychologie humaine, etc. Je me place sur le terrain de la foi, et je considère que celui qui est capable vraiment d'apporter cette guérison que je vais définir dans quelques instants, c'est Jésus-Christ. Maintenant, loin de moi l'idée de mépriser ce qu'on appelle la psychologie, même la psychiatrie d'ailleurs. C'est à tort que quelquefois dans certains milieux chrétiens évangéliques, on a tapé, on a tiré sur le pianiste, pas la sœur, en méprisant, en disant « Oui, la psychologie ne vaut rien, les psychiatres ne vaut rien, je regrette. » Ce qui ne vaut rien, c'est ceux qui se prennent pour des psychologues et qui n'ont jamais fait d'études pour en devenir. Oui. Parce que c'est vrai que dans notre pays, on peut mettre une plaque de psychothérapeute sans avoir passé aucun diplôme. Sachez-le. Il y a des gens qui se disent psychothérapeutes, ils n'ont fait aucune étude. Or, pour devenir quand même psychologue diplômé ou psychiatre, il faut quand même avoir un peu étudié. Et ceux qui croient mieux savoir que les gens qui n'ont pas étudié sont vraiment des gens exceptionnels, car ils savent tout sans jamais avoir rien appris. Le seul qui sait tout sans avoir appris, c'est Dieu. À part lui, je connais personne. Donc, comprenez bien que si un jour vous rencontrez quelqu'un qui consulte des thérapeutes mais vraiment formés pour l'être, ne vous mettez pas à dénigrer, à critiquer, parce qu'on a connu des dégâts causés par des personnes qui ont conseillé à d'autres d'arrêter des soins. Il n'y a rien de plus fanatique, de plus dangereux, aussi pour la réputation d'une église, si on se met officiellement à faire arrêter les soins des personnes. J'ai connu quelqu'un comme ça qui voulait s'occuper de jeunes en difficulté psychologique, etc. Bon, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il leur disait « Vous arrêtez vos médicaments ». Alors, quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il a dit « Parce que les médicaments sont des drogues. Nous, Dieu nous a appelés pour un ministère pour délivrer les drogués, donc on leur demande d'arrêter leurs drogues. » Ouh, mais quelle folie! Quelle folie! Heureusement qu'il y a des thérapeutes sérieux qui font ce qu'ils peuvent pour soulager les maux de l'humanité. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est vous conduire au salut de l'âme. Et je ne voudrais pas que des gens qui sont sous des soins se mettent à culpabiliser. Parce que ça aussi, c'est un problème. Quelquefois, dans les milieux chrétiens, il y a des gens en soins qui se mettent à culpabiliser parce qu'ils ont des soins. Alors, surtout, pas de ça. Il n'y a pas de culpabilité dans la maladie. Il n'y a pas de culpabilité dans la dépression. Il n'y a pas de faute à souffrir. Ça suffit de souffrir sans en rajouter, pourrais-je dire, une couche supplémentaire. Mais ça fait partie des choses qui parfois existent et qui font que, au lieu d'exprimer la souffrance qu'on a, on la cache parce qu'on a peur qu'en la disant, on nous juge. On nous dise, t'as qu'à avoir la foi, t'as qu'à prier. Mais souvent les gens le font. Pourquoi encore je voudrais vous montrer que la prière n'est pas magique et qu'il faut surtout pour notre salut et notre guérison intérieure mettre en place la soumission à des principes spirituels que Dieu nous a donnés. Nous allons lire un autre passage, si vous le permettez, dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 24. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Pour vous montrer comment Dieu conçoit déjà la chose. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui c'est Jésus, qui a porté lui-même vos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On lira la suite tout à l'heure. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Donc, il y a là une affirmation péremptoire et absolue par rapport, on va dire, aux croyants. Comprenez le mot croyant, pas seulement dans le sens de quelqu'un qui croit en Dieu, mais dans le plein sens du mot selon la foi chrétienne, quelqu'un qui est venu à la foi en Jésus-Christ, qui s'est converti, comme on le dit, et qui marche dans une vie spirituelle digne de ce nom. Eh bien, il est écrit « Vous avez été guéris ». Alors, quelqu'un dira « Mais non, mais il y a quand même parmi nous des malades, des gens en souffrance ». Oui, mais qu'est-ce que la Bible veut dire par « Vous avez été guéris » Alors, c'est là que je vais reprendre l'idée de tout à l'heure qui consiste à dire que le même verbe dans la langue grecque, puisque c'est la langue du Nouveau Testament, peut être traduit soit par guérir, soit par sauver. Et le verbe guérir, employé ici par l'apôtre Pierre, a plusieurs sens, mais ça veut dire raffermir, consolider, libérer des erreurs. C'est pas une question de, comment dirais-je, de cancer qui a disparu, de cécité qui s'est dissipée, de surdité dont le sourd aurait été délivré. Le mot signifie une expérience spirituelle, notamment celle-ci, libérée des erreurs. Et c'est en écho, n'est-ce pas, à un autre livre de la Bible qui est Ésaïe chapitre 53 qui dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Alors, je n'ai pas le temps ce soir, peut-être aurai-je le temps d'ici à dimanche, de vous expliquer le rapport qu'il y a entre les meurtrissures du Christ et cette forme de guérison. J'ai pas le temps ce soir de vous pardonnerez, c'est pourquoi il faudrait revenir. J'ai pas le temps ce soir de vous montrer le rapport qu'il y a entre meurtrissure de Jésus et guérison, parce que on peut se poser la question, quel est le rapport logique je dis bien, rapport logique. Il y a des gens qui ne veulent pas voir de la logique en Dieu ni dans la Bible. Il y a une logique, mais patientez, c'est pas pour ce soir, je ne peux pas. Mais, vous voyez, alors vous pouvez reprojeter, si vous voulez, le texte tel qu'il était tout à l'heure. Regardez déjà. Lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le verset 25 commence par ce petit mot. Car. On l'emploie dans quelle situation? Pour fournir, en quelque sorte, une explication. Car. Car. Et de quoi est-il question ici? Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Il n'est pas dit malade. Il n'est pas dit déprimé. Il est dit errante. Qu'est-ce que c'est qu'une brebis errante? Une brebis errante, c'est une brebis qui ne sait pas où est le berger, et le berger la cherche, elle est perdue, elle est égarée. Et à un moment donné, et c'est ce qui s'appelle la conversion, voilà que la brebis errante, que nous étions ou que nous sommes peut-être pour quelques-uns ce soir encore, voilà qu'il y a une rencontre avec le berger. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Eh bien, il nous prend en main et il nous place sur la bonne voie. Et c'est ça la guérison. Vous avez été guéris car vous êtes retourné vers le pasteur de vos âmes. Et le verbe guérir ici ne concerne pas le corps malade qui aurait pu être soulagé d'un mal, quoique ça puisse exister aussi. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est une guérison de quoi? Si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez été guéris de quoi? Bien, vous avez été guéri des mauvaises voies, des erreurs, des fausses pensées dans lesquelles vous étiez. Voilà, vous avez été guéri de ça. Et maintenant, vous êtes sur le bon chemin. Le chemin du salut. Il me semble entendre quelques-uns ce soir qui sont un peu déçus peut-être parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Des autres choses, je veux bien vous en parler aussi, si vous voulez. C'est quoi les autres choses? C'est comment est-ce que je vais être guéri d'un choc affectif que j'ai eu dans mon enfance? Comment est-ce que je vais être guéri, je ne sais pas moi, d'une éducation pleine de carences dont j'ai hérité de mes parents? Comment est-ce que je vais être guéri de tel choc affectif, de telle blessure? Voilà qui parle d'autre chose, le prédicateur. Non, je ne vous parle pas d'autre chose. Mais je suis en train de vous dire qu'avant d'être guéri de toutes ces choses-là, ou plutôt même, je vais dire autrement, pour être guéri de ces choses-là et de ces séquelles, il faut d'abord être guéri de la sorte de vie qu'on vit. Vous pensez peut-être avoir besoin d'être guéri par rapport, je ne sais pas, à une déception sentimentale. Je vous pose la question, cette déception sentimentale, comment ça se fait qu'elle est intervenue dans votre vie? C'est peut-être parce que vous aviez une certaine manière de vivre. Je ne juge personne, je ne critique pas, mais je veux dire tout haut certaines choses pratiques. Si votre manière de vivre pour vous trouver le compagnon ou la compagne de votre existence vous amène à chercher l'autre en disant d'abord on couche ensemble et après on voit si ça fonctionne, on verra plus tard si affinité. Laissez-moi vous dire, sans jugement mais dans l'amour, que vous avez mis les choses à l'envers. Vous commencez par le sexe. D'un soir, en sortant d'une boîte de nuit, vous vous faites séduire par quelqu'un, ou c'est vous qui l'avez séduit, ou séduite. Le lendemain, c'est le réveil. D'ailleurs, il n'est même plus dans le lit, il est parti.
comme dans la pub. Ah oui, parce que la pub glorifie certaines manières de vivre. Vous voyez, il y a, comment dirais-je, ce qui se fait. Et puis après, vous vous étonnez d'être blessé. Maintenant, j'ai même entendu, maintenant on met des coachs partout. Vous savez, les gens se font coacher. Pas scotcher. Coacher. Maintenant, il y a les gens, ils n'ont plus le temps même de faire du speed dating. C'est des rencontres rapides. Alors maintenant, tenez-vous bien, mais je ne vous donnerai pas l'adresse. Il y a des gens qui se chargent de tous les préalables. C'est-à-dire que vous allez dire quelle sorte de mari, de femme que vous voulez. Alors, l'organisme qui vient de se créer sur Internet, n'est-ce pas ? Donc, prend en charge votre demande et il y a un coach qui prend votre place et qui écrit à votre place. Et puis, quand il y aura eu quelqu'un de trouvé pour être interlocuteur ou interlocutrice, alors on fera le rendez-vous. Vous n'aurez que le rendez-vous à faire. Le coach aura tout préparé, même les courriers à votre place. C'est pas beau, ça ? Ah non, pas très. Et le problème des blessures après ? Non mais, des souffrances, des enfants malheureux, des jeunes filles, je sais pas moi, au bord du suicide, des gars qui tombent dans ceci, dans cela, fait dans le suicide aussi d'ailleurs, mais en suivant des voies comme ça, comment voulez-vous récolter autre chose ? Qui sème le vent récolte la tempête. Comme m'a dit un jour une jeune fille, c'est bizarre. J'ai couché avec un gars, je suis enceinte. Comment ça se fait ? Elle a répondu, il est écrit dans la Bible, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. C'était un peu brutal, ça, mais c'est parti plus vite que j'ai été comme Lucky Luke, j'ai tiré plus vite que mon ombre. Mais elle avait besoin de s'entendre dire ça, la fille. Et le gars aussi, mais il n'était pas là, le gars. Alors j'ai parlé à la personne qui m'a parlé. Et c'est pourquoi, avant de parler de consolation, avant de parler de, je ne sais pas moi, d'apaisement, parce que la guérison intérieure, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais il faudrait peut-être d'abord parler de la guérison des voies que nous suivons, parce que, si on continue, mais ça peut être autre chose. Si on continue à se disputer sans arrêt avec les autres, si on continue à se croire le meilleur de la terre et à vivre dans l'orgueil, si on continue de croire que tout nous est dû et que le monde doit être à nos pieds, si on continue de croire qu'on peut faire n'importe quoi aux autres et puis qu'après les autres, ils doivent tout nous pardonner sans qu'on ait besoin de leur demander pardon. Parce que même la pratique du pardon, elle est un peu bizarre parfois, je vais dire, dans la compréhension de certains chrétiens. C'est-à-dire, la pratique du pardon, c'est on culpabilise les gens qui ont du mal à pardonner au lieu de dire que ce sont les coupables qui devraient être culpabilisés. On victimise les coupables et on culpabilise les victimes. Bon, fermons la parenthèse, vous réfléchirez à ça. Mais vous voyez, je vous serais complètement inutile de vous parler de consolation, de vous parler de guérison de blessures intérieures, de frustration, de peine et tout, si je vous disais pas, d'abord, il y a une chose à guérir. C'est la vie que vous suivez peut-être. Vous avez été guéri car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes, c'est-à-dire Jésus. Si on ne fait pas ça, il n'y a pas de guérison. C'est pas possible d'être consolé sans repentance. C'est pas possible d'être consolé sans conversion. C'est pas possible d'être consolé sans vie de prière. C'est pas possible d'être consolé sans piété. C'est pas possible d'être consolé sans aimer Dieu d'abord. C'est pas possible d'être consolé sans pureté. C'est pas possible d'être consolé en vivant dans le péché. dans la haine, dans la malhonnêteté. Vous voyez ? Et évidemment, l'image que nous renvoient les médias, quelquefois ça nous fausse complètement l'esprit, quoi. J'entendais avant de venir, j'ai réussi à capter donc une chaîne d'information, et le directeur de prison qui a entretenu une liaison avec sa prisonnière, peut-être pas la sienne, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. Bref, il a écopé de 3 ans de prison, je crois, ou un an. Et puis, il se fait passer pour une victime, quoi. Pauvre homme et tout. Alors, les médias nous renvoient des images de comportements, et sans qu'on s'en aperçoive, petit à petit, il y a une mentalité qui est communiquée à la société. Il y a une mentalité, une façon de vivre, une certaine moralité ou immoralité ou amoralité qui est communiquée, sur laquelle les gens s'alignent. Les gens s'alignent dessus, et après ils s'étonnent que ça n'aille pas. Et nous autres qui prêchons l'Évangile, nous avons le devoir, la responsabilité de vous éclairer sur le fait que nous n'avons pas le droit de vous promettre la paix, parce que la paix intérieure, c'est la guérison intérieure. Mais on ne peut pas vous promettre la paix à tout prix. En préparant ces réunions, je pensais à ces textes de la Bible. Je vais vous les citer. Je ne vous fais pas chercher, j'irai plus vite. Je pense que vous allez me le pardonner. Ézéchiel 13, verset 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « Paix !» quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Jérémie 6, 14. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. « Paix, paix !» disent-ils et il n'y a pas de paix. Jérémie 8, verset 11. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. « Paix, paix !» disent-ils et il n'y a pas de paix. Parce que l'absence de paix vient de quoi ? Une façon de vivre. Et les choses qui sont proposées sont du plâtre sur la muraille. Vous voyez, quelquefois, on peut avoir mal aux dents, mais au lieu de soigner l'abcès, on peut prendre un calmant. Ça vous calme un temps, mais le mal revient. Vous voyez ? Donc ce qu'il faut, c'est soigner le mal par la racine, c'est le cas de le dire quand on parle de dents. Et c'est vrai, ne voyez pas dans mes paroles une agression quelconque, mais voyez-y, comment vous dire, l'expression de ce que Jésus a appelé la vérité, et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Parce que, franchement, n'est-ce pas, ne croyez pas que sur cette terre, même pour le plus fidèle des chrétiens, une vie sans lutte, ça existe, une vie sans problème, ça existe, une vie sans souffrance, ça existe. Non, ça n'existe pas. Je n'ai pas le droit de vous la promettre. Si certains vous la promettez, dites-vous bien que le jour où vous ouvrirez les yeux, vous aurez peut-être l'envie de dire « on m'a menti ». Nous n'avons pas le droit avec l'Évangile de faire de la publicité mensongère par des promesses inconsidérées de guérison sans condition, non. Mais nous avons la responsabilité de vous dire que si vous voulez vraiment d'abord que Dieu vous soigne, il faut vous donner à lui. Vous savez, on a des blessures, en avez-vous? Non ? Non, c'est indiscret, excusez-moi. C'est pas une plaisanterie, là. Il peut y avoir des chocs, des cicatrices. Vous en avez des cicatrices ?
Celui qui vous parle en a des cicatrices. Je suis pas d'exhibitionniste. De l'exhibitionnisme. Je suis pas Facebook, moi. Je suis pas Facebook, je suis même contre Facebook. Je vais vous dire pourquoi. Que ce soit un moyen comme ça pour s'échanger quelques informations, passe, mais enfin, à la limite, on pourrait faire autrement. Et quand je vois les gens qui s'exhibent sur Facebook, qui se mettent en scène, ils se créent un personnage, qu'ils mettent en scène, le personnage de l'image qu'ils voudraient que les gens aient d'eux, je dis, mais ça, c'est malsain, extrêmement malsain. Et quand vous dites quelque chose à un ami, quoique les amis de Facebook, méfiez-vous, faites la prière, Seigneur, délivre-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe, comme disait quelqu'un. Les millions d'amis, ça va avec les bêtes, l'émission de télé, mais... Non, je suis pas Facebook, je suis même anti-Facebook, parce que ça vous déforme la mentalité. Ça vous rend voyeur ou exhibitionniste de l'intimité des gens. Mais, comme ce qui m'est arrivé, ça a été notoire, peut-être c'est venu jusqu'ici, j'en sais rien. La presse de Bordeaux en a parlé. Pourquoi ? Parce que ce qui était arrivé, c'était quand même grave. Mon troisième enfant, un fils, un soir, sans raison apparente, a pris son poignard et me l'a planté dans la gorge. Alors des cicatrices, j'en ai là. Des cicatrices de protection, j'en ai sur les mains. Donc je sais de quoi je parle. Quand je parle de souffrance et quand je parle de guérison. La couper les jugulaires. J'aurais dû mourir sur place en une minute, à bout de sang. Je suis pas mort, grâce à Dieu. J'ai pas le temps d'entrer, j'ai pas envie de toute façon d'expliquer pourquoi ni comment. Quelques jours après, je découvre que le nerf qui commande le larynx était coupé. Il est derrière la carotide. Les cordes vocales en drapeau. Irréversible. Donc, blessé physiquement, blessé affectivement, blessé familialement, blessé, voyant que tout était fini. Je sais ce que je dis. Mon fils est schizophrène. Grâce à Dieu aujourd'hui, ça fait 12 ans que ça s'est passé, presque. Grâce à Dieu aujourd'hui, Dieu s'est occupé de lui. La relation est restaurée, guérie. De toute façon, je n'ai jamais eu de haine, quoi que ce soit, contre lui. Il travaille, il vit même avec mon épouse et moi. Mais je peux vous parler du fait qu'être guéri, c'est pouvoir chaque jour regarder ses cicatrices. De toute façon, vous êtes bien obligé de les voir, les cicatrices. Voir l'auteur des cicatrices et pouvoir dire c'est passé, mais on s'en rappelle. Attendez, la guérison, c'est pas l'oubli, hein. Le pardon, c'est pas l'oubli, c'est faux. C'est refuser que ce qui vous arrive en quelque sorte hypothèque tellement votre vie, votre comportement, vous pensez que vous devenez l'esclave du drame que vous avez vécu. Bon, peut-être aurai-je l'occasion d'expliquer quelques points avec la Bible pour montrer comment Dieu peut nous aider quand on passe par là. Donc j'étais en train de dire, ne croyez pas que la vie sans souffrance existe. Ne croyez pas que parce que vous êtes un chrétien fidèle, il va rien vous arriver. Que Dieu nous guérisse des gens qui disent ça.
parce qu'ils font plus de mal que de bien, y compris dans les églises. Et même, je vais aller jusqu'à dire que certaines façons, comment vous dire, avec tact, mais il faut que je sois clair dans ce que je dis, certaines façons d'enseigner la souffrance et la guérison ont éloigné les gens de l'église plutôt qu'elles ne les ont rapprochés. Je suis affirmatif. Pourquoi ? Parce que une façon de présenter les choses tellement absolue dans l'idéal et je vais même dire tellement remplie de jugement pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, au lieu d'attirer les gens, ça les chasse. Parce qu'ils se disent, là on va pas me comprendre, on va me juger. Vous savez, vous avez besoin d'abord, non pas qu'on vous juge, mais qu'on vous aime. Et même quand j'ai dit qu'il faudrait peut-être envisager de changer de vie, c'est pas parce que je vous aime pas que je le dis, mais c'est parce que je vous aime que je vous le dis. Repentez-vous, convertissez-vous, devenez vraiment enfant de Dieu. Et alors là, la vie que Dieu va vous donner, ça va être une vie de guérison comme il l'entend. Bien sûr, puisqu'on a encore combien de réunions ? 4, hein ? Il y aura d'autres points plus que je pourrais aborder, mais j'avais vraiment envie de commencer par là. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus dit, je suis venu sauver vos âmes. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors, ça parle de quoi ça ? De salut et de guérison. Combien de temps on a ? Jusqu'à quelle heure on a ? J'ai pas trop regardé. Jusqu'à la fin ? Jusqu'à 20. D'accord. Comme de toute façon, vous reviendrez demain. Vous voyez, il faut comprendre alors ce que la Bible dit, et je veux rester sur cette notion de salut. Voulez-vous regarder avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1 ? Oui, mais comprenez pourquoi il est important de laisser la place à la parole de Dieu. Tout à l'heure, on lisait, il envoya sa parole et il les guérit. Moi, je peux vous dire que quand la parole de Dieu arrive à nous éclairer sur certaines choses, à nous illuminer, voire à nous révéler les vérités divines, c'est la parole de Dieu qui va vous guérir. Une parole de Dieu vous guérit. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut passer du temps, même si je n'ai pas l'intention de faire passer la nuit là, je n'ai pas honte de prendre mon temps pour vous expliquer les Écritures. Vous savez, et j'ouvre une parenthèse, mais c'est peut-être dans le sujet, parce que, en fin de compte, on parle de guérison intérieure, mais la guérison intérieure, ça peut concerner l'individu, ça peut concerner la famille, le couple, ça peut concerner une église aussi, qui a besoin de guérison intérieure, hein? Et quelquefois, on se dit, nous, pasteurs, mais comment on fait? C'est pas facile d'être pasteur toujours. Quand on voit parfois, n'est-ce pas, même dans des églises, des distensions, des gens qui... C'est pas parfait une église, vous savez, une assemblée même de Dieu, c'est pas parfait. Comment on va faire pour guérir? Alors, on peut avoir parfois la tentation d'employer des moyens, on va dire, ben on va faire des films, on va passer des cassettes, mettre l'accent beaucoup sur la musique à fond, à donf. Non. Pendant que Jésus parlait aux disciples d'Emmaüs, ils avaient drôlement besoin de guérison intérieure, ces deux-là. Parce que si vous ne les connaissez pas, vous irez leur histoire à la fin de l'évangile de Luc. Ils étaient là, ils étaient complètement désemparés, désabusés. C'était des chrétiens déçus. Pas déchus, hein ? Déçus. Il y en a des chrétiens déçus, ici à Manosque, ou ailleurs. Oui, il y en a des chrétiens déçus. Il faut dire les choses comme elles sont. Comment voulez-vous qu'on soit guéri si on ne veut pas reconnaître qu'on a besoin ? Il y a des chrétiens déçus, il y a des pasteurs déçus, oui.
Mais oui, faut pas croire que même Dieu parfois il est déçu. Non? Et tout à coup, les deux là, ils ont été guéris. Et ils ont dit à un moment donné, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il cheminait avec nous et qu'il nous expliquait les Écritures? Je vais vous dire, vous voulez le feu dans l'église? Bon, d'abord, c'est pas avec une allumette, mais on met pas le feu comme Johnny. On n'allume pas le feu comme David Guetta. Vous connaissez David Guetta? DJ. Il arrive devant le public. Il dit, bon, maintenant levez tous les bras. Alors tout le monde lève les bras. Moi, je veux pas de ça. Dans l'église de Dieu. C'est pas comme ça qu'on allume le feu. Parce qu'après, on n'est pas guéri. On n'est pas guéri, on est frustré, on est encore plus malheureux. Et on est dans un mensonge. Ce qu'il faut, c'est la parole de Dieu. Notre cœur brûlait pendant qu'il marchait avec nous et qu'il nous expliquait les Écritures. Mon frère, ma sœur, quand moi, je me suis retrouvé ayant le sentiment d'avoir tout perdu, j'ai pris la parole de Dieu. Ça n'a pas été facile. Je pouvais rien lire d'autre que les psaumes. Et je ne veux pas juger les gens qui disent « Je vais tellement mal que je n'ai même pas envie de lire la Bible. » Mais oui, mais je vous comprends. Et à un moment donné, je suis arrivé sur un texte qui m'a parlé. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Et là, ça m'a guéri. Quelque temps après, j'ai vu Dieu me guérir la voix en public devant mon église à Bordeaux. Je savais que Dieu allait me guérir le dimanche. En question, je suis venu, j'ai demandé le micro et un chant spécial. Et devant l'église, j'ai été guéri. Mais d'abord, j'étais guéri en moi par la parole de Dieu. Alors, vous y êtes dans les Hébreux au chapitre 1. Non, pardon, chapitre 2, au verset 3, il est dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voilà une question. Alors, comment échapperons-nous à quoi? Comment échapperons-nous à quoi? À l'enfer? Ah oui, il n'y a pas que ça. C'est comment échapperons-nous bien à tout ce qui nous domine, à tout ce qui nous accable, à tout ce qui nous frustre, à tout ce qui nous opprime, à tout ce qui nous rend malheureux? Parce que des raisons d'être malheureux, on en a tous. En avez-vous? Bien, c'est comment échapperons-nous même à notre nature, à notre caractère, en négligeant un si grand salut? Alors quelqu'un dira peut-être, le salut c'est quoi? Oh, je vais vous l'expliquer très rapidement, quoique la chose n'est pas aussi simple que ça, simpliste. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Un, le salut, c'est quand nous recevons le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le salut, vous êtes sauvés. Mais ça s'arrête pas là, celle-là, ça commence. Après, le salut, c'est un processus. Ça veut dire, je vais prendre l'image d'une future maman. Avant la naissance, il y a un processus en elle de vie qui se développe parce qu'il y a eu conception. Conception. Une semence a été semée dans son corps. Ce que je vous dis n'est pas déplacé, c'est la nature, c'est le Créateur qui a fait des choses comme ça. Et lorsque vous vous convertissez à Dieu par la foi en Jésus-Christ, il met en vous une semence, sa semence. C'est pour ça que vous devenez enfant de Dieu. Seulement, c'est comme dans une grossesse. Il ne faut pas qu'elle soit nerveuse. Parce que si on fait une crise de nerfs, c'est pas comme ça qu'on est régénéré. qu'elle soit réelle. C'est le don de la vie de Dieu qui vient en nous. Et après, il y a un processus qui se fait à l'intérieur de la future maman. Bon, ça se passe normalement en 9 mois avant la naissance. Mais dans ce processus, il y a la vie qui grandit, il y a la vie qui grandit. Eh bien, il en est pareil avec Dieu. Jésus parle d'une nouvelle naissance. C'est la naissance d'une nouvelle vie en vous, par l'Esprit de Dieu, sa parole. C'est Jésus-Christ qui est né en vous, en fait. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est Jésus qui naît en vous. C'est plus vous qui êtes seulement l'occupant. Il y a lui. Et lui, si vous le nourrissez, si vous nourrissez la foi, il va grandir, il va grandir. Et il y a un processus intérieur qui va vous libérer au fur et à mesure. La Bible dit, il y a une régénération. Il y a une reconstruction. Il y a une nouvelle vie qui se développe, mais qu'il faut nourrir. Ça veut dire, il faut être enseigné, il faut être formé, il faut laisser la Bible transformer notre être intérieur. Parce que c'est ça, en fait, la guérison intérieure, c'est la transformation de notre être intérieur. Et peut-être aurons-nous l'occasion, dans les jours à venir, de parler de ce que Dieu sauve d'abord, il guérit quoi ? Je ne sais pas par quoi commencer, en fait. Il guérit notre conscience. Ça, je crois que je vais en faire un sujet. Il guérit notre conscience des choses. Il guérit notre intelligence. C'est-à-dire quoi ? Notre façon de raisonner, de réfléchir, de déduire, d'analyser des choses. Il guérit ça. Il guérit notre caractère et nous transforme. Par son esprit, il fait mourir les œuvres de la chair, c'est-à-dire de notre caractère naturel, pour que nous devenions une nouvelle création. Parce que le rôle de l'Église et le rôle de ceux qui servent Dieu dans l'Église, c'est de faire des disciples. Et si vous ne voulez pas que le Seigneur fasse de vous un disciple, je peux rien pour vous. Mais rien de rien. Même si je priais pour vous, ça ne servirait à rien. Si vous ne voulez pas que Dieu transforme votre vie en une vie de disciple. Ah oui, parce que certains disent « Priez pour moi, priez pour moi !» Non, mais attendez, la Bible dit que quand quelqu'un commet un certain péché, c'est même pas la peine de prier pour lui. Oh là là, quel verset qui m'a beaucoup travaillé. Mais je comprends. Quand quelqu'un qui commet le péché de refuser l'action du Saint-Esprit dans sa vie, à quoi ça sert de prier pour lui, puisqu'il veut pas ? Il ne veut pas. Il pêche contre le Saint-Esprit. On ne peut rien pour lui. Peut-être ça vous fait peur, mais tant mieux. Parce qu'au lieu de vous accrocher aux prières des autres, prières des parents, prières des grands-parents, prières des pasteurs, et puis en même temps vous dites, il prie pour moi, ça va aller, et puis vous faites n'importe quoi. Mais non, mais arrêtez ! Un jour, j'ai fait du bien à une personne. Figurez-vous, savez-vous comment ? Vous allez dire, heureusement que vous n'êtes pas notre pasteur. Ben oui, ben c'est comme ça, vous en avez un plus gentil. J'ai un entretien avec une dame, elle voulait absolument, n'est-ce pas, trouver bon, la paix, le réconfort et tout. Bon, je fais ce que je peux, mais rejeter tout. Tout ce que je pouvais lui dire, lui conseiller, enfin. Bon. À un moment, j'ai dit, écoutez, j'ai un autre rendez-vous, je suis désolé, l'entretien est terminé. Alors, comme elle savait que j'ai l'habitude de terminer mes visites et mes entretiens par la prière, elle attendait la prière. Ben, j'ai dit, attendez, vous attendez quoi ? Elle me dit, j'attends que vous priez pour moi. J'ai dit, mais non. Je ne prie pas pour vous. Puisque vous rejetez tous les conseils qu'on peut vous donner, je suis désolé, ma prière est inutile. Elle est même un péché contre Dieu. Savez-vous que c'est un péché contre Dieu ? Que de prier en détournant son oreille de ce qu'il nous dit. Je disais parfois, quand j'étais encore responsable d'église, je ne le suis plus, donc peut-être qu'ils sont soulagés maintenant parce qu'ils m'entendent plus le dire. Je disais aux frères et sœurs, priez moins, mais réagissez mieux. Ah. Alors certains voulaient me faire dire que j'avais dit qu'il fallait pas prier. Je dis, j'ai pas dit ça. Je dis, mais à quoi ça sert d'être plongé dans la Bible jour et nuit, d'aller à toutes les réunions possibles et imaginables, et quand il n'y en a pas dans son église, on en cherche dans une autre. À quoi ça sert si ça ne nous transforme pas? Ça ne sert à rien. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Dit la Bible. Ben oui, c'est vrai. À quoi ça sert? Ça sert à avoir faim, puis c'est tout. Laissez Dieu vous transformer. Le salut de Dieu, c'est un processus en vous de croissance, d'édification. Vous voyez, là-bas, il y a un peu de littérature et d'enregistrement. Je ne fais pas la pub, même si ce sont des écrits que j'ai faits et des enregistrements, ou même des vidéos que j'ai proposées. De toute façon, je vous mets à l'aise parce que je sais que les questions d'argent, souvent, c'est très sensible. Je reçois aucun centime en salaire ou en royalties avec ce travail. Ça va dans une association et moi, je ne touche rien. Seulement, si c'est là, par exemple, il y a une série d'études qui s'appelle à l'école de Dieu, où je vous propose qu'il y a des choses qu'il faut apprendre. À quoi? On va apprendre? Ah, ben, à l'église, on n'est pas à l'école, hein. J'ai assez d'avoir à apprendre à l'école, à la fac, au boulot. Si en plus, il faut que je vienne à l'église pour apprendre, ben oui, mais je suis désolé. Non, pas tellement, mais c'est comme ça. Sujet numéro 1, apprendre l'obéissance. Sujet numéro 2, je crois, apprendre à laisser Dieu nous former, nous transformer. Sujet numéro 3, apprendre à laisser Dieu nous équiper. Et puis après, apprendre à prier comme Dieu l'entend, etc., etc. Je crois qu'il y a 16, quelque chose comme ça, sujet de choses qu'il faut apprendre. Parce que pendant que vous apprenez ce que Dieu veut vous faire apprendre et que vous êtes vraiment son disciple, là, il vous guérit pendant ce temps-là. Vous en rendez même pas compte. Puis tout à coup, vous vous réveillez le matin, vous dites, tiens, au fait, j'ai dormi. J'espère que vous n'allez pas dire la même chose à l'église. Tiens, au fait, j'ai dormi pendant la réunion. Non, parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Et c'est vrai que parfois, il y a des surprises. Une dame m'a dit un jour, j'ai acheté votre cassette. C'était des cassettes, c'était pas des CD. Ça m'a fait du bien. Oh, mais j'étais content. Elle m'a dit, vous pouvez pas savoir. J'ai mis la cassette. Au bout de 10 minutes, je dormais. Si ça fait du bien, ça fait du bien. Mais enfin, c'était pas le but, quand même, normalement. Bon. Mais pendant que vous faites ça, Dieu vous construit, vous reconstruit. Si vous ne voulez pas que Dieu reconstruise vos habitudes de vie, vos comportements, vos attitudes envers les autres, si vous voulez pas que Dieu vous apprenne comment il faudrait peut-être bien, n'est-ce pas, changer le comportement peut-être avec le mari ou l'épouse ou les enfants ou les parents ou les frères et sœurs de l'église, si ce soit, vous priez toujours pour que eux changent. Je veux bien de prier que toi tu changes. Mais non, même pas de prier mais de changer. Parce qu'il y a des gens qui prient pour prier, mais quand il faut changer, qui prient pour changer, mais quand il faut changer, ils veulent qu'ils ne changent pas. Terrible! Alors, je ne veux pas dépasser le temps, je crois qu'il me reste 2 minutes, ça dépend si je regarde là ou si je regarde là. Je regarde là, ça va, il y a 5 minutes de retard. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ah oui, mais il y a beaucoup de choses à dire, vous savez. J'en suis pas désolé, hein. En plus. Éphésiens chapitre 4 verset 11, ben, il va nous mettre la projection le frère parce qu'il est très, très efficace. Encore en plus bas, la suite si vous voulez. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs pour le... Après, il m'a laissé tomber le frère. Ah, non, le 12 il manque. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bon, il y a un mot là qui est très intéressant, c'est le mot perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Les saints, levez la main. N'osez pas, c'est l'auréole qui vous gêne. «
Les saints, ce sont tous ceux qui ont été mis à part par la foi en Jésus-Christ. Rien à voir avec la canonisation et le calendrier. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont saints en Jésus-Christ. Et il est question de leur perfectionnement. Un, êtes-vous saint? C'est important quand même. Que si vous ne pouvez pas dire ce soir que vous faites partie de ceux qui sont saints en Jésus-Christ, c'est un peu grave, quoi, hein? Donc, faites en sorte, en vous donnant au Seigneur, de le devenir. Par la foi. Bon. Et puis après, il y a le perfectionnement. C'est quoi le perfectionnement? À l'école, il y a les classes de perfectionnement et tout ça. Bon. Mais le mot perfectionnement ici a un sens très précis. Il est traduit par perfectionnement, mais dans le texte original, car la Bible n'a pas été écrite en français, vous le savez. Donc, l'Ancien Testament en hébreu, sauf un peu d'araméen, et le Nouveau en grec. Donc, dans la langue originale du Nouveau Testament, ce mot perfectionnement, qui est un nom, vient d'un verbe. En français, ça vient de quel verbe? C'est pas compliqué, ce que je vous demande. Le verbe correspond. Perfectionner. Bon. Et il n'est utilisé, ce verbe perfectionner, il est utilisé dans l'Évangile, dans un passage qui semble n'avoir rien à voir avec ça. C'est qu'il est dit qu'il y avait des disciples, des pêcheurs plutôt, des pêcheurs de poissons, qui étaient descendus de leur barque, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réparaient leur filet. Réparer, le nom c'est réparation, et le même verbe est à la racine du mot perfectionnement. Autrement dit, le rôle de ceux qu'on appelle pasteurs, sous un mot générique qui enferme un petit peu tous les types de services qu'on peut trouver dans ce sens-là dans l'Église, c'est de travailler à la réparation des saints. C'est quoi ça? Eh bien, parce que d'ailleurs, eux-mêmes, ils l'ont été, ils le sont plus ou moins, parce qu'ils en ont aussi besoin, eux. Si un pasteur disait que lui, il n'en a pas besoin, mais c'est pour les autres, méfiez-vous de lui. S'il disait, la parole de Dieu, c'est bon pour les membres, moi, j'ai pas besoin, moi. Moi, je suis au-dessus du lot, moi, au-dessus du troupeau. C'est grave. C'est grave. Même un berger est une brebis. Et Dieu travaille par eux, au perfectionnement des saints, c'est-à-dire à leur réparation. Vous imaginez ce filet qu'ils étaient en train de réparer, les pêcheurs là, qui sont devenus après des disciples, car c'est à eux que Jésus va dire « Suivez-moi ! Suivez-moi !» Et ils laissèrent leur filet pour suivre Jésus. Bon, mais ce filet, c'est quoi? C'est nous. C'est l'état de notre âme. Avant de connaître l'Évangile, je disais tout à l'heure que peut-être certains diront qu'ils sont pas malades, chose que j'admets, parce que c'est sûr que si on donne l'impression que pour venir au Seigneur il faut être malade, avoir un cancer ou etc., c'est non, mais on est quand même tous malades. On a des trous dans le filet de l'âme, de l'intelligence, du raisonnement, de la logique. Car quelquefois notre logique, elle est contre la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Et la logique du monde, c'est: qu'est-ce qu'on en a à faire des choses de Dieu? Nous, ce qu'on veut, c'est gagner le monde, le pouvoir, l'argent, la richesse, la gloire, la starak. On veut notre heure de célébrité. On veut la gloire. Oui, ça c'est la logique. Et ceux qui ont cette logique, la vie, il faut en profiter. Je vous dis, ceux qui ont cette logique, ils ont un trou dans le raisonnement. Ils ont un trou à la place du raisonnement. Un vide, un creux. Alors le Seigneur dit, ces gens-là, faut pas les jeter.
les rejetaient. Jésus disait, venez à moi, je vous restaurerai. C'est quoi, je vais vous restaurer? Vous achetez une vieille maison, vous la restaurez. Vous achetez un vieux filet, vous le restaurez. Vous rachetez un pécheur perdu, et Jésus le restaure. Il le refait. À la place des trous, il met son enseignement, il met sa parole, il met ce qu'il enseigne. Et là, ça vous guérit. Comprenez ça ? Ça vous guérit. Ça vous guérit. Faites-en l'expérience. J'espère peut-être que ce soir, déjà dans cette approche très générale, après on verra des choses plus particulières dès demain. Mais déjà, vous voyez dans quel sens il faut aller. Dans ce sens-là. De laisser le Seigneur faire en sorte que vous puissiez dire, comme David dans le psaume 23, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Si vous allez dans les sentiers de l'injustice, comment voulez-vous que ça aille? Ça ne peut pas aller. Je dirais, c'est mathématique. C'est la logique de Dieu. Et rien qu'en laissant Dieu faire ça, Dieu va vous bénir. Il y a 3 semaines, ou non même pas, il y a 10 jours, je crois que je faisais des réunions dans une ville, et là, on m'avait demandé le sujet sur le chrétien face à la souffrance. J'ai pas dit ces choses-là, j'ai dit d'autres choses. Et puis c'était le jour où il y a eu la neige qui est tombée partout dans la région de l'Aquitaine, là, ici je sais pas trop si c'était le même jour, un dimanche. C'était un dimanche. Alors l'après-midi on n'a même pas pu faire la réunion, il y avait du verglas, vous savez, les gens d'Aquitaine, moi j'ai vécu en Alsace 14 ans, donc j'ai appris à rouler sur la neige, mais quand je vois la neige en Aquitaine, je dis restons chez soi. Parce que quand je les vois conduire, aïe, aïe, aïe. Donc le pasteur a eu une excellente idée par révélation. Il n'y aura pas de réunion cet après-midi, a-t-il dit, donc voilà. Trop de verglas. Donc, et le matin, il y avait un quart de l'auditoire à peu près. Mais enfin, bon, moi, je prêche la parole de Dieu même s'il n'y a qu'une personne. Si on n'a pas du tout, c'est difficile, mais même s'il n'y en a qu'une, je me dis, elle est venue, il faut qu'elle reçoive. Et puis ma femme, à la sortie, elle m'a dit qu'elle parlait qu'une dame qui pleurait et tout. Ça arrive. Et le pasteur, le soir, il m'appelle. Il me dit, voilà, faut que je vous dise quelque chose. Il y avait une personne, là. Elle était bloquée depuis des années. Elle avait des sensations étranges. Même elle ne pouvait pas s'approcher des autres. Ça lui déclenchait comme un courant électrique. Alors, j'avais jamais entendu parler de ces symptômes. Et surtout, elle était bloquée parce que depuis des années, c'est là que je l'ai su, elle n'avait pas pu verser une larme. C'est pas qu'il faille en verser, hein. Mais il y a des fois, vous savez, il faudrait en verser parce que ne pas pouvoir pleurer, c'est terrible. Et il m'a dit, il faut que je vous dise une chose. Après la réunion, il s'est mis à pleurer. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez envie de faire pleurer les gens, il faut me faire venir. Mais je ne sais pas, franchement, je ne sais pas du tout quel est l'aspect de l'enseignement qui a pu la concerner. Mais je suis sûr d'une chose. Je ne cherche pas à savoir. Si un jour elle veut me le dire, elle me le dira, mais ce n'est pas moi que ça regarde. Quand une parole de Dieu vous touche, elle vous guérit instantanément. Instantanément. Parce que c'est Dieu qui le fait. Et ça, les hommes ne peuvent pas le faire, vous savez. Les hommes, ils peuvent essayer même de nous faire pleurer. Celle-là, on a dû essayer de la faire pleurer, personne n'y était arrivé même. Et Dieu l'a débloquée.
Dieu l'a débloqué. Ce soir, peut-être que quelqu'un a besoin, mais pas d'un déblocage sentimental, affectif ou psychologique ou je sais pas quoi, mais d'une action de l'esprit pour enfin en finir avec un fardeau oppressant, un souvenir angoissant. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier les choses. Ouais, on se rappelle, hein. Ceux qui disent qu'ils ont pardonné mais qu'ils n'ont pas oublié mentent, c'est faux. Malheureusement, c'est souvent les offenseurs qui ont tout oublié. Les offenseurs ont tout oublié. Les offensés, ils se rappellent, même s'ils ont pardonné. Seulement, ils ne permettent pas aux souvenirs de les rendre méchants à leur tour ou quoi que ce soit. Voilà. C'est la différence. Mais si Dieu, ce soir, pouvait vous toucher, voulez-vous que nous prions sur des sujets aussi sensibles et personnels? Je ne fais pas d'appel